Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de se retrouver dans la maison du Père. Est-ce qu'on peut se lever? Notre objectif commun est d'adorer et de louer celui qui est la vie. Est-ce qu'il y a une assemblée ce matin qui est prête à l'honorer, à le louer? Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Amen.
Il y a un nom qui abaisse les montagnes, qui fraye un chemin dans la mer. La semaine dernière, on a pris un nouveau chant. On va le reprendre, ce chant. Et on va proclamer que celui qui agit au-delà de ce que nous pensons et désirons est bien là avec nous. Alors faisons monter nos louanges vers lui. On est prêts ? C'est parti.
Seigneur, nous sommes dans ta présence, magnifique présence du Saint-Esprit parmi nous, en nous. Et c'est ça la beauté, la puissance de la vie chrétienne, c'est que Jésus, quand il est monté au Père, il a dit à ses disciples qu'il est préférable qu'il monte. Pourquoi ? Afin de nous envoyer son Esprit. Et aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires, j'ai envie de dire les heureux bénéficiaires, de la vie divine en nous. Quelle grâce, quelle puissance. Et cette vie de l'Esprit a entre autres pour objectif de nous conduire. Et c'est ce que nous voulons réclamer maintenant à Dieu. Conduis-nous par ton Esprit. Son esprit nous conduit à se poser quelques instants et à se sonder. Et c'est là que le psalmiste David avait dit « Sonde-moi, ô Dieu ». Et lorsque nous sommes conduits, dirigés par son esprit, nous ne pouvons pas ne pas se sonder, se poser les vraies questions, dire « Seigneur, est-ce que je suis sur les sentiers de la justice ? Est-ce que ce que ta parole dit, est-ce que je le mets en pratique ?» Et j'aimerais qu'on prenne ce chant comme une prière commune, une prière personnelle, mais une prière commune, où devant Dieu, nous lui donnons la possibilité de nous sonder et plus encore de nous parler et de nous dire, de mettre le doigt sur les points qui ne vont pas dans ma vie, dans nos vies. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. On reprend ensemble, sonde-moi.
Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
Éprouve-moi, Seigneur,
et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise. Conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est grand, il est digne, il est puissant, il est fidèle.
Oui, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, mais nous nous tournons vers toi aussi de tout notre cœur. Merci pour ce psaume de David. Merci parce qu'il nous permet d'entrer en nous-mêmes, de regarder, d'examiner à la lumière de ta parole, à la lumière de ton esprit. Merci pour ce temps de célébration qui nous rapproche de toi et qui nous permet de vivre dans la vérité, dans l'authenticité, voulant être vrai devant toi ce matin et te dire parle à nos cœurs, Seigneur, parle-nous. Tu connais nos voix, tu connais nos actions aux uns et aux autres. Et dans ce temps de pause de la semaine, nous sommes là pour réfléchir, pour examiner et à l'aide de ton esprit, rectifier, corriger là où il y a besoin de correction. Et nous te remercions pour ta fidélité, ta bonté, aussi ta grâce et ton pardon. Et tout à l'heure, dans le temps de Sainte-Cène, nous prions, Seigneur, pour que ton œuvre de guérison, de restauration, s'opère dans nos vies, dans nos cœurs, à chacun, chacune. Merci pour ta bonté, ton amour. Tu n'es pas là pour nous écraser, nous condamner, mais tu es là pour nous relever, restaurer et nous bénir. Merci pour ta présence. Merci pour la suite de ce temps de célébration. Conduis toutes choses et que chacun, chacune, à notre place, nous recevions de ta part ce que tu as prévu de nous donner aujourd'hui, qui est salutaire pour chacun et chacune. Merci Seigneur. Amen.
Voilà, bonjour à tous, on n'est pas bien dans la présence de Dieu. Alors, il y en a quelques-uns qui disent oui, il y en a d'autres, c'est un peu plus dur ce matin. Avant de commencer par le message de la parole, j'aimerais vous communiquer quelques annonces importantes. L'EPI, ce n'est pas seulement un rassemblement comme ce matin. L'EPI, c'est aussi des rencontres en semaine, des petits groupes qui se réunissent pour prier, partager ensemble, tisser du lien. Donc si vous êtes interpellé, intéressé par cela, n'hésitez pas à aller au point accueil à l'issue de la célébration. Il y a toutes sortes d'informations pour vous communiquer un peu ce qui se passe dans la vie d'église en semaine. Une petite annonce ici ce matin, on a beaucoup de pasteurs en déplacement. Vous remarquez qu'il y a Michel et moi, donc ça c'est un petit peu le fonctionnement. Il faut toujours qu'il y ait deux pasteurs sur place. Mais on a Anne qui a été invitée par les Assemblées de Dieu pour un séminaire pour femmes sur la région de Tours. Du même côté, Mathieu a été invité par toute la jeunesse arménienne francophone en Belgique, un gros rassemblement de jeunesse où Mathieu est l'orateur. Et puis Jérôme est parti à l'Assemblée d'Auxerre où Mathieu est aussi président pour aller filer un coup de main ce matin tout le week-end. Donc voilà, les pasteurs sont un peu en déplacement, mais Michel et moi sommes heureux d'être avec vous ce matin. Amen. Voilà, juste vous rappeler aussi qu'on va avoir notre assemblée générale le dimanche 17 mars. Donc ce sera une AG en deux parties. Je vais bien lire pour rien oublier. Donc il y a les convocations sont affichées au mur, hein, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu toutes les infos. Il y aura une AG qui va parler du bilan de l'année 2023, mais en même temps aussi une AG avec tous les changements de statut pour nous mettre en conformité avec la loi LCRPR. Donc le programme, comment ça va se passer? Il y aura un émargement le 17 mars à 9h, donc pour les membres de l'église, hein, je rappelle. À 10h, une célébration. À 11h, notre AG. Et puis comme à chaque fois, un bon temps d'apéro pour finir tout ça à 12h30. Ça va? Pour les membres de l'église. Et bien sûr, les autres ont le droit de venir boire l'apéro aussi, même si vous n'êtes pas membre. Une petite annonce encore. Nous savons que parfois, des personnes ont des questions précise, technique par rapport à l'Assemblée Générale et au budget, etc. Et souvent, on va y répondre rapidement en AG, mais on n'a pas le temps de développer sur ça. Donc ce qui va se passer, c'est que le lundi 11 mars, il y aura un Zoom prévu à cet effet. Donc si vous voulez rejoindre le Zoom, il y a des petits, à la table là-bas, justement, où il y a les convocations, il y a des petits carrés avec des QR codes et le lien Zoom. Vous pourrez vous connecter pour le lundi 11 mars et participer à ce temps de questions-réponses. Donc voilà, vous avez reçu aussi normalement tous ceux qui sont membres les statuts pour pouvoir les lire en amont et justement pour pouvoir faire remonter toutes vos questions s'il y en a par rapport à ça. Donc il y a un stand aussi avec une boîte à questions. S'il y a des questions que vous avez déjà sur le cœur là qui vous interpelle, il y a une boîte à questions, vous pouvez les déposer déjà les choses, comme ça va nous permettre aussi de préparer cette réunion Zoom au mieux et de répondre à vos questions. Donc ça sera le lundi 11 mars à 20h en Zoom. Ensuite, on rappelle qu'il y a 120 femmes de cette église et peut-être d'ailleurs qui se sont inscrites pour le samedi 9 mars, la journée Women's Day, soyons toujours prêtes, avec notre oratrice Elsa Berthold. Ça va être un temps fort pour les dames. Il n'y a plus de place, hein, vous ne pouvez plus vous rajouter, mais c'est pour rappeler à toutes aux 120 dames inscrites que ça arrive, c'est le samedi 9 mars. De la même manière, dimanche prochain, il y aura une célébration intergénérationnelle avec les enfants, les ados, les jeunes et les adultes dans cette salle. Ça va être un moment fort. On aura la joie d'entendre Magali Thoman qui nous partagera un moment fort, je crois, entre enfants, ados, adultes, parce que l'Église, on croit qu'elle est composée de tous ces gens, petits et grands. Amen. Y en a qui sont d'accord avec ça ? Il y a l'Église de maintenant, l'Église en devenir, l'Église en formation, et tout ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il y aura également le dimanche 31 mars un moment fort. Vous savez, on sera dans le week-end de Pâques. Et c'est un temps fort où on croit que le message de l'Évangile peut encore venir impacter des vies. Donc il y a toute une célébration qui est en train de se bâtir pour que vous puissiez inviter vos amis, vos proches à entendre le message de la bonne nouvelle avec tout un travail. Il y a la louange qui travaille, il y a l'équipe communication qui travaille. Voilà, ça va être un bon moment fort et vraiment on vous encourage à inviter. Ce sera vraiment à destination de ceux qui veulent découvrir l'Évangile ou qui se posent des questions. Donc n'hésitez pas à venir vivre ce moment avec nous, je pense, Mathieu, si tu m'écoutes en replay, que j'ai tout dit. Voilà, ce matin, je vais vous partager le message que j'ai eu à cœur. Ça fait un mois que ça me travaille et le thème, c'est « Si tu veux briller, sois réconcilié ». Vous savez que Mathieu a lancé cette année 2024 sur le thème de « briller, brille là où tu es », de « briller là où nous sommes, là où Dieu nous a placés ». Alors, il n'est pas question, lorsqu'on parle de briller, de strass et de paillettes, non. Il est juste question de remplir notre mandat qui est d'être la lumière du monde, de refléter celui qui est venu donner sa vie à la croix pour nous, celui qui désire encore appeler des hommes et des femmes à le suivre en 2024. Voilà le mandat que nous avons en tant que disciples de Jésus. On est ses pieds, on est ses mains en action sur cette terre. Voilà pourquoi il y a cet appel pour cette année à briller, à faire éclater la gloire de Dieu. C'est notre désir. Et une des meilleures façons de briller pour nos contemporains, c'est de vivre ce que Jésus va nous laisser comme message dans l'évangile de Jean, où il va nous dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, 34, 35. Un amour concret. Vous savez, quand on parle d'amour, on ne parle pas juste d'une émotion. On parle de quelque chose qui nous pousse à l'action. L'amour, c'est chercher les intérêts de l'autre avant les siens. Voilà le mandat que Dieu nous confie pour être ses témoins, pour pouvoir briller dans notre société. Mais la question que je veux nous poser ce matin, c'est que se passe-t-il lorsque l'amour fait place à l'hostilité ? Que se passe-t-il lorsque l'amour fait place à la dureté de cœur? Que se passe-t-il lorsque l'amour laisse place au mépris au sein du peuple de Dieu? On va aller dans un passage de l'évangile de Matthieu ce matin qui va être tiré du sermon sur la montagne. Et Jésus va adresser l'urgence et l'importance de régler la question du mépris au milieu de son peuple. La question du conflit au milieu de son peuple. Alors, désolé, ce matin, le message ne va pas venir caresser nos petites émotions. Mais il va nous appeler à être radical dans nos décisions, parce que être disciple de Jésus en 2024, c'est encore un appel à le suivre radicalement dans toutes ses voies, y compris celle de la réconciliation. Premier point que je voudrais soulever avec vous, c'est que pour Jésus, le mépris est proscrit. Pour Jésus, le mépris est proscrit. On commence la lecture, Matthieu 5, versets 21-22. Jésus va dire, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Comme on l'a souligné, juste avant. Ces versets sont tirés du Sermon sur la montagne. C'est un discours que Jésus a adressé à des foules, mais où il visait particulièrement ses disciples, tous celles et ceux qui avaient décidé de le suivre, tous celles et ceux qui avaient décidé de marcher avec lui. Ce passage nous parle d'une une éthique radicale. En fait, ça nous décrit ce que Dieu souhaite voir, ce que Dieu veut voir et ce que Dieu veut désire voir dans nos vies, entre nous. Finalement, c'est l'idéal de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est là où il veut nous voir tendre. Il s'agit de belles attitudes que nous devons incarner en tant que disciples de Jésus. Alors on voit que pour parler de ce message, Jésus va prendre appui sur la loi de Moïse comme un point de départ. Mais plutôt que juste de la confirmer ou l'abroger, il va l'interpréter, il va la transformer, il va l'amener plus loin, en fait, il va l'accomplir. On pourrait comparer l'image que Jésus fait avec une chenille. La chenille contient tout ce qu'il faut pour devenir un papillon. Mais la chenille n'est pas un papillon. Elle a besoin de passer par la transformation pour pouvoir devenir un papillon. C'est la même chose et c'est ce que fait Jésus ici. Au-delà d'un juste un changement extérieur, nous allons voir que Jésus va pointer à nos motivations de cœur. Vous savez, les pharisiens qui étaient les spécialistes, les interprètes de la loi de l'époque, quand ils voyaient ce commandement qui disait « tu ne tueras point », ils disaient que finalement, celui qui était passible de jugement, c'est celui qui commettait l'acte extérieur de meurtre. C'est lui qui devait passer en jugement. Mais il semble ici que Jésus, lui, vise autre chose que l'acte de tuer physiquement. Le théologien Richard Tefrance, qui a écrit un commentaire sur l'évangile de Matthieu, a dit la chose suivante. Jésus cherche ce qui se cache derrière l'acte de tuer et déclare que la colère et la haine qui y conduisent, qu'il est impossible d'évaluer dans une cour de justice humaine, n'en sont pas moins condamnables devant Dieu. Peut-être que les religieux disaient « mais qu'est-ce qu'on est bon ? C'est vrai, moi j'ai tué personne, je suis une bonne personne. J'ai tué personne, j'ai fait de mal à personne, j'ai pas porté de coups, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » Et puis ils étaient dans de l'auto-justification. Puis finalement Jésus il arrive, il est en train de dire « les gars, vous êtes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Qui ici ne s'est jamais mis en colère contre personne ? Qui ? Personne. Personne. On est tous coupables parce qu'on s'est déjà mis en colère contre quelqu'un. Alors je fais tout de suite une petite pause. Quand on va parler de colère dans ce passage, on ne parle pas du sentiment de colère que Jésus viserait ici. Il est impossible de jamais se mettre en colère. Vous savez, la colère, c'est un sentiment qu'on va vivre lorsqu'il semble qu'il y a une injustice qui est là, qu'il y a une injustice qui prend place. Et il est normal de ressentir de la colère lorsque vous vous sentez attaqué, agressé injustement, ou alors si des gens commencent à raconter un peu n'importe quoi sur vous, c'est normal d'exprimer un sentiment d'injustice et que ça provoque une colère. Mais si la colère est une émotion, le rester est une décision. Si la colère c'est une émotion qu'on ne peut pas éviter, choisir de rester dans la colère, c'est une décision. Et c'est bien ça que Jésus va pointer ici. Le commentaire anglais Life Application dira « La colère, ici, fait référence à une amertume bouillonnante et couvante qui menace toujours d'échapper à tout contrôle, conduisant à la violence, à des blessures émotionnelles, à un stress mental accru, à des dommages spirituels et oui, même à des meurtres. » Ce sont bien les effets de la colère laissée à elle-même, cette colère qui se matérialise, cette colère qui monte crescendo que Jésus va adresser ici. En plus, il dit, il parle d'une colère qui est adressée à un frère. Lorsque vous voyez le mot frère, on parle de co-disciple, un autre disciple de Jésus, un autre disciple pour qui Jésus a donné sa vie à la croix. Mes amis, il n'est pas sain de faire le choix de cultiver, de garder, de rester dans la colère. Parce que ça va générer de mauvaises actions et parfois même des inactions. Pourquoi ? Lorsque la colère elle est abandonnée à elle-même, elle est, mes amis, comme un feu qu'on ne peut pas contenir. C'est un feu qui va finir par nous échapper et qui va faire des dégâts autour de nous. Et un des dégâts que Jésus va pointer ici, c'est celui de l'insulte. Notre texte nous parle de traiter son frère d'imbécile. Le terme araméen ici, c'est raka, qui nous parle de tête vide, de tête creuse. Et en fait, lorsqu'on emploie cette expression, on est en train de rabaisser l'autre. On est en train de le mépriser. Alors, ce n'est pas des mots particulièrement vulgaires dans le contexte, mais ils le sont parce qu'ils méprisent la personne. Les commentateurs expliquent que ce terme de mépris était un affront personnel et public. Les injures étaient dans la culture juive très insultantes parce qu'on touchait à l'identité d'une personne. On dépouillait la personne de son identité et on lui donnait une identité offensante à la place. Ensuite, Jésus va poursuivre et parler du mot « fou ». Qui, là encore, est un terme qui méprise notre frère ou notre sœur, qui, là encore, le dépouille de son identité personnelle et en faire à tort ce qu'il ou ce qu'elle n'est pas. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident. Je dois me confesser ce matin que quand je suis derrière le volant de ma voiture, qu'il y a un gars qui ne démarre pas assez vite au feu, qui met pas de clignotant, ou peu importe, je dois me confesser que parfois, il y a des noms d'oiseaux qui fusent. Il y a toujours la personne qui a été mise à mes côtés pour me sanctifier, qui me dit « Qu'est-ce que c'est que cette attitude, Raymond Pierre ? Alors, je t'aime. » C'est pas toujours évident, mais ce que Jésus va pointer ici, c'est plutôt l'enjeu qui se cache derrière les insultes et le mépris de l'autre, et finalement, qui finissent par déshumaniser l'autre. De tout temps, lorsqu'on a voulu faire du mal à une personne ou se débarrasser d'elle, on va la diaboliser, on va la déshumaniser afin de se permettre de faire ce qu'on sait ne pas avoir le droit de faire. C'est comme ça que les nazis ont dit un jour que les juifs n'étaient pas des êtres humains. C'est comme ça que ça se passe. On va toujours chercher à déshumaniser l'autre, à la rabaisser. Cette diabolisation, ce mépris de l'autre, ne va pas toujours se matérialiser avec des mots. Vous allez dire, oui, ok, ça va, il ne fallait pas faire de meurtre, je n'ai pas dit d'insulte. Vous savez, la politique de la guerre froide fait les mêmes dégâts. Il y a peut-être un semblant de calme, mais c'est l'hostilité qui couve. Je me souviens d'une saison où le grand club de football olympique de Marseille a fait une très très mauvaise saison, et pour les footeux, je ne parle pas de cette année, elle est très mauvaise aussi. Mais ils ont fait une très mauvaise saison. Et il y a un match où le stade était, il n'y avait pas un bruit. Les supporters s'étaient passé le mot, on ne parle pas. Et il y avait une banderole qui disait, vous ne méritez que notre silence et notre mépris. Alors oui, c'était calme. Mais je peux vous dire que l'atmosphère était lourde, l'atmosphère était oppressante, l'atmosphère était mortuaire. Mes amis, ce n'est pas parce qu'on pratique la guerre froide qu'on est plus spirituel. Le mépris, il détruit. Le mépris détruit les gens. Vous savez, c'est un petit peu comme les gens qu'on méprise parfois parce qu'ils nous harcèlent au téléphone et on les blackliste. Aujourd'hui, avec nos applications, on peut empêcher des gens de nous appeler là. Et parfois, on fait ça dans nos relations avec les autres. On les blackliste. Ceux-là, c'est fini. J'en parle plus. Ceux-là, c'est fini. On n'a plus de dialogue, plus de relations, plus rien. Regardez l'escalade qui est en train de se passer au niveau géopolitique. On est en train d'entendre un écho peut-être de guerre nucléaire entre les Occidentaux, représentés par notre président, et le président russe. Pourquoi il n'y a plus de dialogue entre les deux? Il n'y a plus de dialogue entre l'Occident et la Russie. On se parle juste par caméra interposée. Et puis ça monte en crescendo et en escalade. Parce que le dialogue a été rompu. Mes amis, dans ma propre famille, on est en train de vivre avec un proche parent, quelqu'un qui a décidé qu'il n'avait plus rien à nous dire. Ça, c'est la réalité. Quelqu'un qui a décidé, c'est fini, on ne parle plus. C'est calme. Il n'y a plus de hausse de ton au téléphone, mais pourtant il n'y a que de la souffrance dans les cœurs. Le mépris détruit. Mépriser notre frère ou notre sœur pour qui Jésus a offert sa vie, c'est grave. Voilà pourquoi Jésus va parler du feu de l'enfer dans notre passage, la Géhenne. Ce mot tire son nom de la vallée d'un ravin profond qui signifie la vallée des fils de Hinnom, et qui était un lieu où, du temps des mauvais rois, Akaz et Manassé, on sacrifiait des enfants à Moloch. Plus tard, c'est devenu une décharge publique où les gens amenaient tout ce qu'il y avait à brûler, puis il y avait un feu perpétuel qui était alimenté. Et c'est comme ça que ce mot a tout doucement pris la place de l'image pour l'enfer éternel, un feu qui ne s'arrête jamais. C'était devenu un dépotoir public. Le cœur de Dieu, mes amis, est qu'on ne laisse pas notre cœur devenir un dépotoir public, une décharge de mépris envers celles et ceux qui nous entourent. Parce que cette décharge va finir par devenir notre prison. Mais le cœur de Dieu, c'est que nous puissions expérimenter la libération. Mais il n'y a pas de libération sans réconciliation. Et c'est mon deuxième point ce matin. La réconciliation n'est pas une option. Jésus va continuer. Si donc, tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Le piège dans lequel on pourrait facilement tomber est celui d'une spiritualité de façade, où on accomplit des actes rituels. Je donne mon offrande, je vais à la réunion de prière, je vais au culte le dimanche matin, mais où je ne cherche pas à vivre le relationnel. On voit ici que pour Jésus, être spirituel, c'est prendre soin du relationnel, et non de prioriser le rituel. Le commentaire Life Application dira encore la chose suivante, à certaines périodes de l'année, les Juifs apportaient des sacrifices pour les offrir à l'autel du Temple de Jérusalem. Les Juifs apportaient leurs dons comme une évidence, dans le cadre du respect de la loi de Dieu. Mais Jésus a expliqué que ceux qui entrent dans la présence de Dieu doivent venir avec un cœur pur, sans être gênés par des relations brisées, qu'ils ont le pouvoir de réparer. On estimait, dans le contexte de l'époque d'ailleurs, que lors de la fête des expiations n'ôtait pas, elle n'enlevait pas les offenses contre le prochain si une réconciliation n'était pas intervenue entre-temps. Et ce que je veux souligner ici, au travers de ce commentaire, c'est que oui, il est possible de réparer des situations où le mépris a pris place. On a le pouvoir, nous, on a la capacité de restaurer les relations. On a le pouvoir de le faire. Oui, on peut faire demi-tour à nos façons de penser, à nos blacklistages, pour nous aligner avec le cœur de Dieu. C'est intéressant que, dans ce verset qu'on vient de lire, Jésus nous invite à détourner les regards de notre nombril, peut-être en disant, voici ce qu'il ou elle a fait, ou ce qu'il ou elle n'a pas fait, ou ce qu'il ou elle a dit, ou ce qu'il ou elle n'a pas dit. De se détourner de soi, pour plutôt aller regarder, mais qu'est-ce que moi j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Ou qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? Ou qu'est-ce que j'aurais pas dû dire pour qu'on en arrive dans cette situation? Life Application dira la réconciliation est la responsabilité de celui qui a fait du tort à quelqu'un d'autre, bien qu'une attitude réciproque soit comprise. La question à se poser ce matin dans une situation de conflit n'est pas de prioritairement énumérer tout ce que les autres ont fait pour qu'on en arrive là, mais de se poser la question... Qu'est-ce que j'ai fait pour ma part pour qu'on arrive à cette situation? Quelle est mon implication dans la situation du jour? Quelle est ma contribution dans le pourrissement de la situation dans laquelle je suis? Mes amis, lorsqu'on est dans cette attitude, et on l'a chanté tout à l'heure, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, regarde si je suis dans une mauvaise voie. Lorsqu'on est dans cette attitude, non pas d'aller chercher ce que les autres m'ont fait, mais de dire, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour en arriver là? Je vais avoir beaucoup plus de facilité à aller vers l'autre. Parce que le but, mes amis, n'est pas de savoir qui a raison. Le but, c'est de restaurer la relation. Et pour cela, il faut être déterminé à bâtir des ponts. Ce n'est pas juste des chansons le dimanche matin. La paix, la grâce, le pardon, ce n'est pas juste des chansons le dimanche matin. On est content de les avoir chantées et rien ne change le reste de la semaine. C'est un vrai appel du cœur de Dieu à vivre l'évangile. Un vrai appel de Dieu. Bâtir des ponts. Il n'y a encore pas si longtemps, je ne comprenais pas une position de mon épouse sur un souhait de projet. Et lorsqu'on a échangé ensemble, je me suis rendu compte qu'il y a quelques années, elle ne s'était pas sentie respectée et aimée par moi à cause de mes réactions. Voilà pourquoi moi, depuis, à chaque fois que j'essayais d'amener le sujet sur la table, ça lui rappelait elle-même ce qu'elle avait ressenti et ce qu'elle avait plus envie de revivre. Et ça faisait comme un blocage. Dès que j'ai pris conscience, suite à notre discussion, du tort qu'elle avait subi, je lui ai pris les deux mains. J'ai cité l'événement en question et je lui ai dit, Anne-Laure, je te demande pardon pour mon attitude ce jour-là dans telle circonstance. Mes amis, ça change la vie. Ça change la vie pour deux choses. Moi, j'ai compris le raison du blocage qui était là chez elle et je ne comprenais pas à chaque fois. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mais elle a compris. Elle a pu expérimenter, pardon, qu'elle avait bien subi un tort à cause de mon attitude et de mes paroles. Et ça déverrouille les choses, mes amis. Ça déverrouille les choses, mais ça prend un pas de courage. C'est Luc Dumont qui dit souvent ça, mais c'est vraiment une phrase que j'ai gardée pour moi. Mais mes amis, on doit avoir le courage de nos convictions. Ma conviction, c'est que Jésus change des vies, que Jésus change et restaure des relations. Et je dois avoir le courage de faire la part qui est la mienne, parce que le Saint-Esprit est avec moi. Je ne suis pas tout seul. Le courage de nos convictions. Alors oui, ça va mettre un petit coup à notre orgueil. Mais retenez bien cette phrase, il n'y en a qu'une que vous devez retenir ce matin. Chercher à sauver les apparences nous empêche d'expérimenter la délivrance. Chercher à sauver les apparences nous empêche d'expérimenter la délivrance. Alors voici quelques clés que je voudrais vous donner. C'est des clés qu'on donne à l'EPI. Vous savez qu'à l'EPI, on a tout un programme d'accompagnement, de préparation au mariage pour tous ces jeunes et ces moins jeunes qui décident de dire « Ah, c'est l'homme, c'est la femme de ma vie. Puis une fois que je serai avec elle, avec lui, ça va être génial, ça va être beau, on va être comme sur un nuage. » Oui, le mariage, c'est beau. Oui, le mariage, c'est Dieu, mais oui, le mariage, c'est un défi. Et à l'EPI, on laisse pas des gens aller au casse-pipe sans les avoir accompagnés dans les process, justement, pour pouvoir avoir une communication, apprendre à dialoguer, etc. Et une des clés qui sont communiquées, c'est que pour régler un conflit, pour régler un litige, et que pour pas qu'il s'envenime ou qu'il prenne des proportions trop grandes, ce qui est important déjà, c'est de chercher à comprendre l'autre avant de vouloir être compris. Chercher à écouter l'autre avant de vouloir être compris. Je le dis souvent, mais Dieu nous a donné deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. Une image, bien sûr, on a besoin d'entendre à gauche et à droite, ça n'a rien à voir, mais c'était pour l'image. On fait aussi des messages à la première personne. On communique par le « je » parce que le « tu », il tue. T'as pas fait ci, tu fais ça, c'est toujours comme ça, nanana, et toujours les « tu, tu, tu ». On parle en termes de « je ». On exprime ce qu'on a ressenti dans une situation, dans un moment. Et en disant le « je », on n'est pas dans l'accusation, ça va nous empêcher de devenir agressif. Et puis l'autre, de se mettre sur la défensive et de se barricader. Il y a l'importance aussi d'une écoute réceptive. On manifeste, mes amis, notre estime de l'autre en prenant en considération ce qu'il a ou ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a vécu, ce qu'il ou elle a vécu, ce qu'il ou elle a ressenti. Si on ne comprend pas bien, on peut reformuler, on en a déjà parlé il y a un mois. On pose des questions si on n'a pas compris. Si on a tendance à se couper la parole. Je dois me confesser encore que je suis un homme comme ça, mais quel mauvais je suis. Si on a tendance à se couper la parole, il faut faire la technique de Koh-Lanta. La technique de Koh-Lanta, c'est le totem d'immunité. Lorsqu'on communique, celui qui a le totem d'immunité n'a pas le droit d'être coupé. Tant qu'on a le totem en main, alors nous c'était un mouchoir blanc, etc., mais c'est de permettre à l'autre d'exprimer son idée jusqu'au bout. Parce que bien souvent, quand on coupe, on ne laisse même pas le temps à l'autre d'expliquer, et puis nous on est déjà dans notre interprétation et on répond déjà alors qu'on n'a pas permis à l'autre d'exprimer toute sa pensée. Et bien souvent ça vient mettre encore du poison. Donc si on a tendance à couper la parole, faisons le totem de Koh-Lanta et de toutes les autres émissions de télé-réalité qui existent et qui sont très bien, on ne doit pas citer une seule sinon on va être embêté. Lorsque l'autre il a fini, on peut aussi récapituler, finalement faire une synthèse. Résumer avec nos propres mots, tout ça pour éviter les malentendus et puis de clarifier si besoin. Il est aussi important de prendre en considération les propositions de l'autre, même si elles ne correspondent pas aux nôtres. Parce que ça démontre l'intérêt qu'on porte à l'autre. Si on n'écoute pas l'autre parce qu'on dit tes arguments, ils sont bidons, on est en train de le mépriser. On on ne doit pas mépriser l'autre. Donc on le laisse développer. Peut-être qu'après, on va essayer de trouver un compromis pour se sortir de l'impasse. Mais il est important de ne pas mépriser l'autre. Vous savez, laisser des problèmes non résolus, c'est permettre au péché qui a été créé de continuer de détruire et de semer son poison dans les relations entre les personnes. Le commentaire de la Bible NIV va dire la chose suivante. L'activité religieuse qui tente d'apaiser notre relation avec Dieu n'a aucun sens si elle n'est pas fondée sur la pureté de nos relations humaines. Nous ne devons pas venir au culte en sachant que nous avons maltraité quelqu'un. Mes amis, excusez-moi de le dire comme ça. Ça n'a pas de sens d'avoir les mains ouvertes au ciel le dimanche matin quand tu as le poing fermé sur des frères ou des sœurs le reste du temps. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas avoir les mains ouvertes au ciel avec le poing fermé en direction de tes frères ou de tes sœurs, de ton frère ou de ta sœur. Mes amis, il y a un appel urgent à la réconciliation et c'est mon troisième point ce matin. L'urgence de la réconciliation. Matthieu 5, 25, 26. Jésus va dire « Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. » Jésus va prendre ici l'exemple du droit romain. Lorsqu'il y avait un litige entre deux parties, ces deux parties pouvaient se mettre en accord, partir ensemble au tribunal, et ils avaient encore le temps de régler le problème. Et s'ils le faisaient avant d'arriver au juge, l'audience pouvait être annulée, et puis le dossier est réglé. Par contre, s'ils ne se mettaient pas d'accord le long du chemin, et qu'ils arrivaient au tribunal, et que le tribunal rendait son verdict, c'était fini, on ne pouvait plus rien bouger. C'est un appel, mes amis, pratique à résoudre nos conflits avant que la colère ne cause encore plus de problèmes. C'est aussi un appel à arranger ce qui peut l'être avec nos frères et nos sœurs avant de devoir nous présenter devant Dieu un jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous avez déjà réfléchi à ce verset ? On est en train de dire à Dieu, fais de la même manière avec moi que ce que je fais avec les autres. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Réglons tant qu'il est encore temps. Ceci étant dit, il est important de souligner maintenant aussi que on ne peut forcer une personne à nous pardonner. Il faut parfois du temps pour qu'une personne nous fasse confiance à nouveau parce qu'elle a été blessée. Et si c'est le cas dans vos relations, on doit rester dans cette attitude constructive de réconciliation. Si je me remets en colère parce que l'autre ne m'a pas pardonné assez vite, je suis juste en train de dire que finalement, je n'ai pas pris en considération le mal que je lui ai fait. Il y a un timing. Il y a un timing dans les relations. Donc si réconciliation n'est pas encore possible parce que la douleur est trop forte, reste intègre dans tes voies. Continue de chercher. Vous savez, dans la situation familiale que je vous ai partagée, j'ai senti un moment d'envoyer un message, puis dire, ben voilà, on peut se poser, etc. Puis bien sûr, le retour, c'était, je n'ai plus rien à vous dire. Moi et mes frères et sœurs. Mon cœur, il est le suivant ce matin. Je suis brisé, je suis triste. J'ai dit, Seigneur, s'il revient, je tendrai la main. Je ne veux pas laisser le poison du non-pardon venir pourrir ma vie. Ça fait trop de mal, les amis. Alors je continue à prier pour que les cœurs changent, que Dieu conduise des temps où un jour on va pouvoir se poser. Demander pardon à ce qui a demandé pardon dans les deux sens, certainement. Mais de rester dans cette politique de la main tendue, même si l'autre n'en veut pas. Ça ne veut pas dire harceler l'autre. Ça veut dire que le jour où ça va prendre place, je ne vais pas dire bah, « c'est trop tard ». C'était avant qu'il fallait le faire. Il n'est pas trop tard tant qu'on est encore aujourd'hui, nous dit la Bible à plein de reprises. Jésus nous dit, ne tarde pas tant que tu es encore en chemin. Et je crois que pour 2024, Dieu nous attend encore en chemin, dans nos relations, afin que ça puisse faire la différence. Tout ne se fait pas toujours selon notre calendrier, mais nous, en tant que disciples, on a une responsabilité. On disait ça aussi dans la police Je n'ai pas obligation de résultat, mais j'ai une obligation de moyens. De faire ce que j'ai à faire. Oui, Jackie, tu rigoles, hein, tu t'en souviens de ça. Je veux conclure ce matin et je vais inviter l'équipe à s'approcher avec ces deux versets de l'apôtre Paul. De Corinthiens 5, 17, 18, Paul nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. » Mes amis, nous sommes au bénéfice de la réconciliation que Dieu nous a accordée en Christ. Voilà pourquoi il est important de désirer, vouloir le vivre avec celles et ceux qui nous entourent. Parce que si on ne le fait pas, on est en train de se séduire nous-mêmes en pensant que nous, on mérite plus le pardon que l'autre à côté de nous. On ne mérite pas plus le pardon que les autres, mes amis. Nous étions des pécheurs entachés par notre péché. Mais dans son amour et dans sa grâce, c'est le ciel qui a tendu une main vers nous ce matin. On a besoin de se laisser interpeller par cela. Je ne mérite pas plus le pardon que tu ne mérites le pardon. Mais Dieu nous l'a accordé par pure grâce. Et en tant que pieds et mains en action, Dieu nous appelle à vivre ce pardon dans nos relations, encore aujourd'hui. Ce verset commence avec « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Je crois que le nouveau de Dieu est à notre porte, mes amis. On est à deux doigts du nouveau de Dieu ce matin. Il est à portée de chacun d'entre nous. Mais ça passe par cette recherche de réconciliation. Alors peut-être qu'il y a des peurs qui t'empêchent de vouloir faire le premier pas. Tu te dis « Mais si je le fais, ça va être quoi la réaction? Qu'est-ce qui va se passer ?» Mais est-ce que ce que tu vis en ce moment, c'est vraiment idyllique? Est-ce que la guerre froide, c'est vraiment idyllique? Il n'y a pas de bruit, mais ça fait mal. Est-ce que tu n'as pas déjà assez souffert de cette relation dans laquelle que tu as entretenue? Mes amis, prendre le risque de perdre ce qui n'est seulement qu'un semblant de relation, ça vaut le coup si ça permet de poser les bases d'une vraie relation et d'une vraie réconciliation. Ça vaut le coup d'avoir le courage de ses convictions en tant qu'église ce matin et dire on veut être cette église qui vit le pardon. Le pardon dans nos foyers, le pardon dans nos familles, le pardon peut-être au travail, le pardon avec un ami peut-être. De faire ce pas, de prendre ce courage, de dire qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait qui fait qu'on en est là aujourd'hui dans notre relation. Eh bien, juste pour ça, je vais demander pardon, même si je n'ai pas de pardon en retour. D'être dans cet état d'esprit. Je crois que c'est cet état d'esprit qui va nous permettre de briller et de refléter ce cœur de Dieu pour notre société, ce cœur de Dieu pour notre génération. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez, savoir demander pardon ou pardonner, c'est tout un message dans notre société. Vous savez, les chrétiens, on n'est pas meilleurs que les autres. Mais la différence, c'est qu'on est appelé et capable, parce que Dieu nous en donne les moyens, d'aller demander pardon quand on a fait une erreur. Dans notre société, on cache nos erreurs. Soit on va essayer de la mettre sur quelqu'un d'autre, on va essayer de cacher ce qu'on a fait, on va essayer d'enlever les traces pour qu'il n'y ait plus rien. La différence du chrétien, il n'est pas meilleur qu'un autre. Mais quand il se plante, il est capable de revenir vers l'autre et lui demander pardon. Mes amis, si on veut expérimenter la délivrance, la puissance et tous les beaux mots qu'on dit dans nos prières, on a besoin de vivre ce cœur de Dieu dans nos relations, ce cœur de Dieu dans notre quotidien, dans qui on est. C'est un message, je crois, ce matin, porteur de salut et d'espoir pour des relations, pour des gens, pour des situations qui semblent comme figées et bloquées. Ma prière ce matin, c'est juste que Dieu nous fasse grâce et nous aide dans le chemin avec lui pour 2024.
Frères et sœurs, on va prendre la Sainte Cène ensemble dans le prolongement de ce message. L'apôtre Paul dira aussi, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous sommes chacun pour notre part responsables pour nous-mêmes, et c'est notre cœur que nous voulons continuer à examiner devant Dieu, alors que l'équipe de Sainte-Seine se rassemble autour de la table pour préparer le repas. Nous nous souvenons de ces paroles de l'apôtre Paul qui dira « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est que la nuit où Jésus a été livré, il a pris du pain, il a remercié Dieu, il l'a rompu, il l'a donné aux disciples en disant « Mangez-en tous ». Et puis après avoir mangé, il a pris la coupe, il l'a rendu grâce à Dieu, il l'a donné aux disciples en disant « Buvez-en tous ». Faites ceci en mémoire de moi. Et ce matin, nous faisons mémoire de ce que Jésus a fait pour nous. Et merci pour cet excellent message de Raymond Pierre qui rappelle l'essentiel de l'Évangile. Nous voulons vivre ensemble cela. Alors, on va prier ensemble et puis on va prendre la Sainte Seine. Et je vous demanderai chacun de garder le pain. On pourra prendre tous ensemble. Et de garder aussi le petit gobelet, on prendra le gobelet tous ensemble comme un signe de solidarité. Nous nous appartenons les uns aux autres. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ appartiennent à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et donc, manifester notre unité, notre solidarité en prenant ensemble le pain et le vin. Seigneur, nous te remercions d'être mort à la croix pour nous. Nous te remercions de nous avoir sauvés. Nous te remercions parce que nous ne méritions rien et tu nous as tout donné. Tu nous as pardonné le premier. Tu as été un modèle, un exemple pour nous. Et nous voulons te suivre dans cette démarche. Merci de nous donner ton esprit qui nous aide à être courageux, à prendre les bonnes décisions. En ce qui nous concerne en tout cas, Seigneur, comme le rappelle l'apôtre Paul, nous voulons garder nos cœurs propres devant toi. Merci pour le sang versé qui nous purifie, qui nous pardonne. Et à notre tour et à ton instar, nous voulons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et aussi faire la démarche qui s'impose si c'est nécessaire. Merci de nous en donner la force. Amen. J'invite ceux qui prennent le pain, le vin à se lever maintenant. À leur place.
Sonde-moi, ô Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si
Le pain ensemble. Buvons aussi ensemble. Merci de bénir ton Église, Seigneur. Merci d'accompagner les décisions qui sont prises dans le fond des cœurs. Que cette journée soit une journée particulière. Une journée où tu vas briller dans les vies, dans les cœurs, dans les pensées, dans les couples, dans les familles, dans l'Église. Que toute cette semaine soit une semaine bénie, une semaine forte, en relation renouvelée. Merci de nous aider, Seigneur, à être des témoins de ta grâce, de ton amour, de ta paix. Toi qui as tout fait pour faire tomber les murs et les barrières, créer des ponts, tu l'as fait avec nous, aide-nous à le faire avec les autres et ainsi à te glorifier par notre vie, par nos paroles, nos actes, de manière concrète. À toi, Seigneur, toute la louange et toute la gloire. Amen. C'est ainsi que se termine notre culte ce matin. On dit au revoir aussi à tous nos internautes. Et sachez qu'il y a dans le prolongement aussi de ce culte un temps d'écoute et de prière. Si vous êtes désireux d'avoir un temps de prière, bien n'hésitez pas à venir juste ici sur le côté. Il y a une équipe à votre disposition qui prendra le temps de prier avec vous et pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bon retour, bonne rentrée à chacun. Et à nos internautes, excellente semaine à chacun et chacune.